Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette de l'espace sur les routes de la musique. Aujourd'hui, nous continuons notre périple à la recherche de ces femmes courageuses qui ont dû transgresser les règles et les conventions simplement pour jouir du droit d'exercer leur art. La musique est un mot féminin, mais trop souvent, ce sont les hommes qui font les dictées musicales. Dans les sociétés primitives, seul le sorcier avait le droit de jouer des instruments de musique. Il lui permettait de communiquer avec les esprits et lui donnait donc le pouvoir suprême sur les autres hommes. Plus tard, les femmes vont être exclues du champ religieux et celles qui sont intéressées par la spiritualité ne vont avoir d'autre choix que de se faire sorcières. Entre la muse et la sorcière, c'est dur de se faire une place pour une femme et parfois, elles devaient se déguiser en homme pour vivre librement leurs amours. Nous allons accompagner quelques grandes transgresseuses, quelques grandes courageuses, quelques grandes amoureuses et nous réjouir de leur histoire qui nous réchauffe le cœur des siècles après. Allez, c'est parti, ouvrons grand nos oreilles et nos cœurs.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Sœurs jumelles cosmiques et cubaines qui nous chantaient « Away, Away ». Depuis Cro-Magnon et la Vénus Hottentote, si les femmes sont sujets d'inspiration, muses ou grandes prêtresses, pour se faire une place dans l'histoire de la musique, c'est une autre histoire. L'histoire, justement, a voulu les ranger dans la cuisine ou sous le paillasson. Alors, il faut beaucoup de force et de conviction pour marcher sur les plates-bandes des maestros. Et le chemin de la libération, comme souvent, passe par la rébellion. La première rebelle du jour, elle s'appelle Giuditta Pasta. On est en Italie au 19e siècle. Giuditta est cantatrice et en 1827, elle se fait une place dans l'opéra. Comment ? Elle met des chaussettes dans sa culotte et elle joue le rôle de Roméo dans Roméo et Juliette. Une femme qui joue un adolescent amoureux et héroïque Le public est choqué. Choqué de voir un héros représenté par une femme. Choqué de voir une femme travestie en homme en pleine étreinte amoureuse avec Juliette. Et en même temps, troublé par cette voix extrêmement étendue et son timbre sombre et voilé. Oh, comme je les aime, ceux-là, ils font vraiment transpirer de la moustache. Rien à dire, les gens sont contraints d'être envoûtés par cette femme qui joue un homme. Giuditta Pasta avait une particularité. Elle pouvait produire des sonorités sépulcrales. Ça veut dire qu'ils semblent sortir d'outre-tombe. Alors forcément, ça fait peur. Théophile Gautier, en l'entendant, s'exclamera « Une voix si féminine et en même temps si mâle !» Juliette et Roméo dans le même gosier. Avant, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pour atteindre cet envoûtement, il y avait les castrats. Ces voix d'anges qui viennent du ciel et touchent directement le cœur. Et puis bon, quand même, au bout d'un moment, on s'est dit que c'était peut-être extrême de couper les roubignoles des gens. Alors, peu à peu, les castrats ont disparu. Et en un quart de siècle, les cantatrices ont pris un essor considérable et elles ont ébloui le public. Et voilà comment le travestissement a remplacé la castration. Ça fait moins mal. La question du travestissement est d'ailleurs très caractéristique de la musique italienne du XIXe siècle. L'opéra devient dès lors un lieu de stylisation et d'artifice et un lieu d'éloge de l'ambiguïté sexuelle et de l'équivoque. Revenons à Giuditta Pasta. Après avoir brillé dans les premiers rôles masculins de la grande époque de Rossini, Giuditta Pasta devient la muse de Bellini et de Donizetti. Elle inspire les grands rôles d'héroïnes romantiques, Norma, Amina la Somnambula ou Anna Bolena, des femmes cette fois-ci. C'est en se faisant reconnaître dans un rôle d'homme qu'elle a pu s'affirmer en tant que femme, comme si c'est un passage obligatoire pour rendre compte au public de son pouvoir vocal.
Giuditta Pasta inspira donc les plus grands et aussi une femme, une grande écrivaine, George Sand, qui s'en inspira pour son roman Consuelo, écrit en 1854. Consuelo est une chanteuse bohémienne qui essaie de faire sa place dans l'Europe du XVIIIe siècle.
Consuelo ? Lui dit le maestro en la prenant par la main. « Viens là, ma bonne fille, chante-moi le Salve Regina de Pergolèse. » Consuelo, avec simplicité et avec aisance, éleva purement, sous les profondes voûtes de la cathédrale, les accents de la plus belle voix qui les eût jamais fait retentir. Elle chanta avec perfection. « C'est bien, ma fille !»
Au fil des pages, Consuelo grandit et nous suivons son ascension sociale envers et contre tous. Avec ce roman, on voit qui est George Sand, une défenseuse des femmes et une amoureuse de la musique. Une rebelle, quoi.
George, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you. Comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Giuditta Pasta s'est déguisée en homme pour chanter Roméo. George Sand, elle, a travesti son nom pour se faire une place dans l'histoire de la littérature. En fait, elle s'appelle Amantine Aurore Lucille Dupin, baronne du Devant. Ça, c'est du blaze. En 1829, elle prend son pseudonyme masculin, George Sand. Et camouflée derrière lui, elle prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés d'une société conservatrice. George Sand, pour cela, fait scandale. À une époque où la femme se taisait, elle prend la parole. Femme et écrivain, elle est passionnée de musique et elle suit ce qui se fait en son temps. Elle assiste à l'émergence de la musique instrumentale, elle découvre la musique populaire et l'importance de l'improvisation. Dans ses correspondances, on assiste à tout cela et on se dit que Georges aurait grave pu être critique aux Un Rock. Bon, ce n'était pas l'époque, du coup, on lit ses ressentis musicaux dans ses lettres, notamment dans « Lettres d'un voyageur ».
Je t'ai raconté bien des fois un rêve que je fais souvent et qui m'a toujours laissé, après le réveil, une impression de bonheur et de mélancolie. Je me vois assise sur une rive déserte et une barque pleine d'amis qui chantent des airs délicieux vient à moi sur le fleuve rapide. Ils m'appellent, ils me tendent les bras et je m'élance avec eux dans la barque.
George Sand s'élance sur la barque de la musique pour rejoindre ses amis. Elle écoute son ami Litz lever sous son piano pour mieux s'imprégner de sa musique. Elle écoute chanter son amie la cantatrice Pauline Viardot dans son salon. Elle écoute son amant Chopin lever dans ses bras. Mais comment il faisait pour jouer du piano avec George dans les bras ?
George Sand s'inspira de ses rencontres dans ses livres et elle, de son côté, inspira de nombreux hommes de son époque.
Alain parle de Sand avec respect. Cette grande femme, dit-il, et le ton de sa voix fait comprendre qu'à ses yeux, cette grande femme est un grand homme. Pensez qu'elle inspira Chopin et Musset, que Delacroix avait chez elle un atelier, que Balzac venait demander à la camarade George Sand le sujet d'un de ses plus beaux livres, Béatrix, que Flaubert l'appelait ma chère maître et pleura quand il apprit sa mort, que Dostoïevski voyait en elle un écrivain unique par la vigueur de son esprit et de son talent.
George Sand est une femme majeure de son temps. Elle entend le monde et le transcrit. Elle entend le monde au premier degré. Elle le ressent par ses trompes de stage. Pour elle, la musique est autant dans un chant d'oiseau que dans une symphonie de Berlioz, que dans les musiques populaires, que dans les grandes œuvres de Beethoven ou que dans l'écho des montagnes. Si on remet ça au goût du jour, 17 juin 2017, ça fait « La musique, c'est autant le chant d'un pigeon que le glapissement d'un camion de pompier, que le ronronnement d'une voiture électrique, que le nouvel album de Camille, que la dernière chanson de Kenji Girac. » Ouais, bon. En tout cas, George Sand, en son temps, n'établit pas de hiérarchie entre les formes et les genres de musique. Tout est à pied d'égalité. Le seul critère est le suivant, l'émotion que provoque la musique. T'as les poils ou t'as pas les poils.
Moi, j'ai les poils quand j'écoute les mots de George Sand.
On a dit avec raison que le but de la musique, c'était l'émotion. Aucun art ne réveillera d'une manière aussi sublime le sentiment humain dans les entrailles de l'homme. Aucun autre art ne peindra aux yeux de l'âme et les splendeurs de la nature et les délices de la contemplation et le caractère des peuples et les tumultes de leurs passions et les langueurs de leurs souffrances. Le regret, l'espoir, la terreur, le recueillement, la consternation, l'enthousiasme, la foi, le doute, la gloire, le calme, tout cela, et plus encore, la musique nous le donne et nous le reprend au gré de son génie.
Musique, magie des sens et de l'éveil.
Elle crée même l'aspect des choses. Elle nous fait voir, à travers un voile vaporeux qui les agrandit et les divinise, les fantômes gigantesques des antiques cathédrales, en même temps qu'ils nous feront pénétrer dans la pensée des peuples qui les ont bâtis et qui s'y sont prosternés pour chanter leurs hymnes religieux. Et pour qui saurait l'écouter comme il convient, il ne serait pas nécessaire de faire le tour du monde, de voir les différentes nations, d'entrer dans leurs monuments, de lire leurs livres et de parcourir leurs montagnes, leurs jardins ou leurs déserts.
La musique, si l'on sait l'écouter, nous fait pénétrer dans la pensée des peuples. Elle nous fait voyager dans le temps et dans l'espace.
Écouter la musique, c'est donc faire un peu l'ethnologue. Quand on écoute Roméo et Juliette, on devine bien la place de la femme dans la société de l'époque. Toute petite et riquiquite. Alors que si aujourd'hui, on écoute « Libérée, délivrée de la Reine des Neiges », on peut comprendre que cette place a évolué.
Il boit une 8-6. Mini Austin, il sort du périph'. Gangsta rap culture, cette musique l'a rendu autiste. Il a rencard avec une fille moitié brésilienne, moitié kabyle. Gogo danseuse, elle dit être artiste. Il connaît toutes les répliques du film Scarface. Le frère, il dit, mes mains, elles sont pas faites pour cette merde. La cité l'a vu grandir, lui a tourné la tête. Parce que selon le contexte, on confond force et faiblesse. Elle chante, elle rêve de la carrière de Wallen. Elle a perdu tout repère depuis le décès de son père. C'est l'allégorie d'une fille facile qui est assise à la place du mort, qui pense que je t'aime n'est qu'un mouvement du corps. Elle aussi va et vient, se donne et regrette. Ensuite lui kiffe, SMS, elle se pointe de suite. Ils vendent la CC, alors ils jouent les barons, le duc de la cité. Leur cœur bat de concert affective mendicité. Il s'appelle Roméo, elle s'appelle Juliette. Roméo et Juliette.
Il accélère, elle rabat un peu le dossier du siège et lui dit « Tu es belle ». Elle s'engouffre dans le piège, puis dévie, elle dit « En ce moment, je lis Malraux ». Elle a une fausse poitrine et les fantasmes d'une bimbo. Alors, fatalement, ce qui l'intéresse chez elle au départ, c'est pas son cerveau. Elle s'en rend bien compte et se mordit la lèvre. Comme quand gamine, elle joue au cerceau. Ce monde, il est horrible. Et nos gamins, ils y périssent tellement vite, mais on en est tous là. C'est juste l'amour qu'on cherche à vivre. Et si ça part en vrille, c'est que c'est sans modèle. T'es livré à toi-même. Et l'âpreté de la vie ne rend pas forcément meilleurs les caractères. On peut même être sous des apparences contraires, indifférent à l'autre quand la douleur est égocentrée, parce qu'en vérité, c'est sur nous-mêmes qu'on s'est prosterné. C'est juste une métaphore qui pourrait être biblique comme le veau d'or, parce que notre époque est d'accord dans le désaccord. On est déchiré par l'absence et le vide, en prise avec nos paradoxes, le besoin d'amour complique. Il s'appelle Roméo.
Elle s'appelle Juliette. Roméo et Juliette. Elle approche son visage, se rétracte, se demande si au fond, elle-même n'est pas une sorte d'offrande. Sacrifiée sur l'autel de toutes celles qu'on mal, qui souffrent, qui peinent tellement de ne pas avoir confiance en elle. Même si elle sait bien que son je t'aime est factice, elle se dit, aux yeux de quelqu'un au moins elle existe. Lui, il a la main gauche sur le volant, l'autre sur sa jambe à elle. La voiture file et leur cœur se fêle. Si elle était sa sœur et lui, un mec quelconque, il retire sa main. À cette pensée passe les vitesses et fonce en prison. Souvent il se disait, quand je sors, je change. Mais dehors, son démon prenait toujours le pas sur son ange. Il tourna la tête à gauche et le camion déboula à droite.
Le duo sublime Abdelmalik et Juliette Gréco qui nous chantait Roméo et Juliette. Juliette fait sa crise d'adolescence. Elle se rebelle, elle tombe amoureuse de Roméo. Roméo, le fils de la famille ennemie, forcément. Leur histoire d'amour est impossible. Il ne faut pas aller contre l'ordre établi dans l'Italie du XVIe siècle. Mais bien avant, une autre histoire d'amour va faire scandale et entrer dans le panthéon de la transgression pour l'éternité. On est en France, au XIIe siècle. Elle s'appelle Héloïse. Elle est in love d'Abélard. Ces deux amants maudits, Héloïse et Abélard, ont vraiment existé. Notons que cette fois-ci, contrairement à Roméo et Juliette, on met le prénom de la femme en premier. C'est Héloïse et Abélard. Héloïse, enfant illégitime, issu de la plus haute noblesse, est élevée par son oncle Fulbert, un chanoine. À 17 ans, il la confie à Abélard, un brillant maître en théologie de 36 ans. Abélard était beau et fort brillant et avait déjà croisé Héloïse. Héloïse était belle et fort brillante. Abélard acceptait d'être son professeur pour la conquérir. Héloïse était déjà reconnue pour ses connaissances, sa pratique du latin, du grec et de l'hébreu. Elle était la seule femme de cette époque à poursuivre ses études dans les arts libéraux, devenant ainsi l'unique et première étudiante dans un cursus réservé aux garçons. En plus d'être une bonne élève, Héloïse était une poétesse et elle était déjà célèbre dans tout le royaume car ses poèmes étaient repris par les Goliards. Alors les Goliards, c'était des clercs itinérants des XIIe et XIIIe siècles. Ils écrivaient des chansons à boire et des poèmes satiriques en latin. Ils allaient souvent par groupes, par bandes nombreuses et bruyantes, causant fort désordre sur leur passage. Les Goliards, les bouffons de la société cléricale, n'ont jamais été en odeur de sainteté. Libres chanteurs, ils gagnaient leur vie en amusant le désœuvrement des abbés et des prélats.
Un exemple, André, s'il vous plaît ?
D'accord, à la vôtre. Le premier est pour les affranchis, une autre fois pour les prisonniers, une troisième pour les vivants, une quatrième pour les chrétiens, une treizième pour les voyageurs, une pour le pape, une pour le roi, tous boivent sans loi. Ainsi nous sommes ce que tous méprisent, et ainsi nous sommes sans le sou, ceux qui nous critiqueront au diable, et avec les justes ne seront pas comptés.
Ah mais alors, Françoise Hardy, c'est une goliarde ? Mais les Goliards ne font pas que de la musique soul.
Oui, à leur manière, les Goliards écrivent des protest songs. Ils clament, chantent ce que l'Église est en train de devenir. Ils dénoncent l'échec des croisades, les abus financiers et les relations immorales et pécuniaires avec la royauté et la noblesse.
Donc les Goliards, en fait, ça serait un mélange entre Françoise Hardy et Renaud. Mais Héloïse, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ?
Héloïse, elle inspire les Goliards parce qu'elle est le symbole de la figure féminine d'une jeunesse étudiante qui s'émancipe.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever! I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn."
C'était le sublime Fever, chanté par Peggy Lee.
André Manoukian, Les routes de la musique, sur France Inter.
Héloïse et Abélard sont beaux, ils sont jeunes, mais il y a toujours un mais. Abélard enseigne à Héloïse. Qui de l'élève ou du prof tombe amoureux de l'autre? En tout cas, très vite s'ensuit une liaison sexuelle et intellectuelle entre le maître et sa jeune élève. La passion les inspire et les pousse l'un vers l'autre. Le maître et l'élève s'aiment envers et contre tous. La passion charnelle les consume et c'est bien loin de tout ce qu'ils ont reçu comme enseignement.
Preuve en est avec leur correspondance qui nous dévoile tout ce qu'ils se sont dévoilés.
Glissons-nous dans la chambre d'Héloïse. C'est le soir. La jeune fille enlève sa chemise. Elle libère ses jeunes seins de leur petit corset de toile, se pelotonne sous les couvertures, ferme les yeux, mais...
Demoiselle Héloïse.
Seigneur, qui êtes-vous?
Votre amie, Adela. Héloïse.
Oh. Dans la chambre d'Héloïse, il y a un lit ouvert comme un livre ouvert.
Écoutez le latin d'Héloïse.
Conjugis suo,
à son époux, ou plutôt à son frère.
Ipsius uxor,
son épouse, ou plutôt sa sœur, à Abélard,
Abélardo,
Héloïse.
Héloïsa.
Sur le bureau d'études, au milieu des livres, les traces de leur amour.
Sous prétexte d'étudier, nous nous livrions sans cesse à l'amour. Devant les volumes grands ouverts, nous commentions bien plus nos sentiments que les textes. Les baisers étaient plus nombreux que les maximes. Les mains plus affairées, aérées autour des seins qu'autour des manuscrits, et nos yeux amoureux plus absorbés en eux-mêmes qu'en leur lecture.
Ils s'aiment, se bousculent, et bousculent ainsi la morale et les codes de l'époque.
Jamais je n'ai cherché en vous que vous-même. Bien que le nom d'épouse paraisse et plus sacré et plus fort, un autre a toujours été plus doux à mon cœur. Celui de votre maîtresse, ou même, laissez-moi le dire, celui de votre concubine et de votre fille de joie.
Et on suit leurs ébats grâce à leur correspondance. Gentelet nous en parle, lui, de ses correspondances. Il s'en est inspiré pour son roman sur Héloïse. Héloïse houille.
Abélard, dans une lettre très célèbre qui s'appelle « Lettre de consolation à un ami », il raconte qu'avec Héloïse, ils ont fait tout ce que deux corps pouvaient se faire. Et Héloïse, dans les lettres qu'elle écrira à Abélard, elle ne lui parle que de sexe. À un moment, elle lui dit, par exemple, « Je n'ai pas le remords des péchés commis, j'ai le regret des plaisirs perdus. »
Héloïse gémit, et la morale frémit.
Et je termine d'un mot cette longue lettre. Adieu, mon tout.
Le scandale éclate en deux temps, trois mouvements. Quand Fulbert, l'oncle, découvre les deux amants enlacés comme Mars et Vénus. Deuxième temps, Héloïse tombe enceinte. Fulbert, le tonton méchant et Furax. Les deux amants se marient secrètement pour sauver l'honneur, mais la carrière d'Abélard est en jeu, car il a trahi l'Église. Selon les lois, à cette époque, les clercs doivent être célibataires. Le scandale de leur relation finit par éclater quand le chanoine Fulbert dénonce leur mariage secret. Il crie à la répudiation d'Abélard et envoie deux hommes de main pour le punir. La punition sera l'émasculation. Ainsi, Abélard est châtré en août 1117. « Tu seras puni par où tu as péché. La Bible dans une main, le sécateur dans l'autre. » C'est ainsi qu'on éduque le peuple en ces temps-là. Mais à partir de ce moment-là, le scandale prend une autre tournure. À cette époque, l'émasculation est une punition réservée aux adultères et aux violeurs. Ah, quand même un peu de morale. Et là, on s'aperçoit que l'émasculation n'était pas méritée et qu'elle n'est que la vengeance personnelle de l'oncle Fulbert.
Et alors, Fulbert est émasculé ?
Non, pas lui, mais les deux malfrats qu'il a employés, eux, ils sont émasculés. Et puis, dans la foulée, on leur crève également les yeux. En tout cas, à la suite de cet épisode, plus question d'amour passionné sur le bureau. Abélard demande à Héloïse de prendre le voile à l'abbaye d'Argenteuil. Elle lui obéit, elle devient abbesse. Abélard, lui, se réfugie à l'abbaye Saint-Denis où il devient moine et continue ses travaux de philosophie. Désormais, leur fougueuse passion s'exprimera dans les lettres de leur amour de magnifiques et lyriques échanges en latin. Histoire d'amour entre deux abbayes. Rien n'altérera leur lien. Quand Abélard meurt en 1142, Héloïse fait de ce pas fabriquer un cercueil plus large pour pouvoir se lever aux côtés de son mari quand ce sera à son tour de mourir. 20 ans plus tard, en 1164, elle meurt. La légende dit que sa volonté fut respectée et qu'Abélard, mort depuis tant d'années, étendit les bras pour la recevoir et les ferma, la tenant embrassée à jamais. Que c'est beau !
Et l'histoire mortelle n'est pas finie. Aujourd'hui, Héloïse et Abélard sont au Père Lachaise.
Alors que s'est-il passé ? Comment sont-ils arrivés au Père Lachaise ?
Quand il a fallu faire de la publicité pour ce cimetière, parce que les gens ne voulaient pas, les Parisiens ne voulaient pas venir être enterrés ici, c'était beaucoup trop loin de Paris. Alors Napoléon avait dit, nous allons faire de la publicité pour le cimetière, et on en a fait. On a fait venir en grande pompe les restes de Molière et La Fontaine, ainsi que les restes d'Héloïse et Abélard.
Ainsi, les deux amoureux ont continué leur voyage, main dans la main, même dans la mort.
Et les ossements sont arrivés en grande pompe ici, et nous savons exactement le nombre d'os pour Héloïse et pour Abélard. Pour Héloïse, nous savons qu'il y a la moitié du crâne, la mâchoire, un tibia, deux fémurs. Pour Abélard, je ne sais plus exactement, mais il y a tout le crâne, je crois, et quelques autres os. Donc ils sont vraiment là, leur reste.
Et les cœurs des deux amants, où sont-ils ?
Ils sont bien tranquilles, sans règles ni lois qui les empêchent de s'aimer. Enfin, c'est pas cool de devoir attendre la mort pour ça, quand même.
Ride that wave to freedom.
C'était Ozeki True Love. Si vous aimez la musique et que vous voulez être solidaire, n'oubliez pas que les Solidaires se tiennent à l'Hippodrome de Longchamp du 23 au 25 juin.
France Inter. Les routes de la musique. André Manoukian.
André, comment est-ce qu'on déclare une passion interdite en musique ?
Ah, la passion en musique, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'art du chromatisme. Qu'est-ce que c'est que le chromatisme ? On a déjà vu notre gamme, elle est faite d'un enchaînement de tons et de demi-tons. Le chromatisme, en fait, c'est quand on utilise le demi-ton. Alors, je reprends ma gamme de do, do, ré, entre le do et le ré, un ton, entre le ré et le mi, un ton, entre le mi et le fa, un demi-ton, entre le fa et le sol, un ton, entre le sol et le la, un ton, entre le la et le si, un ton, entre le si et le do, un demi-ton. Il y a deux demi-tons qui se baladent dans cette gamme, c'est pour ça qu'on appelle la gamme majeure, la gamme diatonique. Et ces deux demi-tons, fa et si, ils vont créer le déséquilibre dans cette gamme. Et c'est ce déséquilibre qui va lui donner la dynamique, sans quoi on pourrait pas raconter d'histoire. S'il n'y avait pas ces deux demi-tons, on aurait une gamme tonale. Un ton entre chaque degré, ça ferait quoi ? C'est bizarre, on a l'impression qu'on n'exprime pas vraiment des sentiments, comme s'il y avait quelque chose de neutre, alors que dès qu'on met les demi-tons... En fait, c'est cet intervalle de demi-tons qui va créer toute la passion. La preuve ? La lettre à Elise de Beethoven. Vous avez vu comme il lui tourne autour ? C'est carrément... Oh là 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 ! Mais jusqu'à la résolution sur l'accord mineur. La lettre à Elise qui, entre parenthèses, est une erreur de casting. En fait, la lettre à Elise, le manuscrit a été découvert 50 ans après la mort de Beethoven. Et dessus, c'était écrit « Für » pour, en allemand. Et puis, le prénom était complètement effacé, et avec les deux dernières lettres qui étaient apparentes, et c'était SE. Et la personne qui a découvert ce manuscrit était amoureux fou d'une Élise, donc il se dit, c'est pour Élise. Et ben en fait, c'était de Thérèse que Beethoven était vachement amoureux. Bon, lettre à Thérèse, ça le fait moins, mais c'était la vérité, lettre à Thérèse. Alors le chromatisme, on s'en sert, Chopin va s'en servir énormément, on va s'en servir aussi dans le jazz quand on improvise. Vous vous rendez compte que le chromatisme abolit la notion de tonalité et finalement nous englue un peu dans une sorte de passion. Ce qui fait que si on en abuse, au bout d'un moment, c'est un petit peu trop. Là, on a carrément une sensation de vertige et de chute. Alors, ce qui est beau, c'est de jouer de l'alternance, de jouer la gamme comme elle est, et puis de temps en temps, quand on glisse un petit chromatisme, alors là, on sent l'effet. Et on va accentuer encore l'effet, si on veut, du chromatisme par une trille. Alors ça, c'est la Rhapsody in Blue de Gershwin. Le chromatisme suivi d'une résolution, c'est un petit peu comme une libération. Et là, on plaque un bel accord majeur, de la même manière que Beethoven. Qu'est-ce qu'elle fait du bien, cette résolution? C'est comme, finalement, qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit, je te veux, 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 je te veux.
Et là, ça y est, je t'ai embrassé. Vous l'avez senti, la chaleur du baiser de Beethoven à Thérèse. Et en fait, il l'a jamais embrassé. Perfume Genius qui nous chantait Die for You.
France Inter. Les routes de la musique. André Manoukian.
Mais y a-t-il que des destins tragiques en amour? La passion n'est-elle qu'un poison qui asservit l'homme et le rend malheureux? Faut-il l'éradiquer comme le demandait Schopenhauer? Non, non, répond son disciple Nietzsche, il faut la transformer en énergie créatrice. Eh ben, c'est ça qu'ils ont fait, eux deux. Dans le nouveau couple vers lequel nous allons, elle s'appelle Juliette, sauf que son Roméo s'appelle Miles. Un amour entre deux grands de la musique, Juliette Gréco et Miles Davis. En mai 1949, le tout jeune Miles Davis, âgé de 23 ans, est déjà reconnu par les maîtres Charles Mingus, Charlie Parker ou encore Dizzy Gillespie. Il part pour la première fois à l'étranger, direction la Salle Pleyel de Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré. Là, il captive l'intelligentsia de l'époque, Jean-Paul Sartre, Boris Vian, Pablo Picasso et une certaine Juliette Gréco. Une passion foudroyante naît entre eux deux, le jazzman black et la chanteuse habillée en noir.
Juliette Gréco se souvient de leur première rencontre.
Here we go.
Ah, il avait l'air d'une statuette égyptienne. Il était extrêmement étrange et
D'une étrange beauté, d'une grande intelligence et d'un génie total et absolu, ce que tout le monde sait, quoi.
Et Juliette ne nous en dit pas plus.
Vous ne vous étendez pas sur le sujet. C'est
si,
pas...
si, je me suis étendue longuement sur le sujet.
Ah oui, d'accord. Vous me faites rougir.
Juliette la coquine aime un peu, beaucoup, passionnément Miles Davis.
Lui, alors, il a une phrase. Je trouve qu'il est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une femme. Il écrit... J'ai eu quelques maîtresses avant de rencontrer Juliette Gréco, mais avant de l'avoir fait l'amour avec elle, je ne savais pas ce que c'était que de faire l'amour à une femme.
C'est un grand travail, l'amour.
Et ce n'est pas toujours facile de vivre librement en amour.
Et non, à cette époque, les unions mixtes étaient prohibées aux États-Unis. Avec Juliette, Miles a pour la première fois l'impression d'être traité comme un être humain. Juliette Gréco le rencontre tout d'abord par sa musique. Elle est frappée par son extrême beauté, par son génie, la force et l'étrangeté, la différence et la modernité de ce qu'il jouait, de ce qu'il était. Telle la lyre d'Orphée, la voix de la sirène ou le joueur de flûte d'Hamelin, Miles et sa trompette envoûtent Juliette et la bouleverse. Elle avait 20 ans, elle sortait de la guerre et dans la musique de Miles, elle entend la liberté. En ces temps d'après-guerre, ça sert aussi à ça la musique, à retrouver la liberté. Et c'est pareil pour l'amour. Le couple se libère donc ensemble. Ils se libèrent des préjugés du monde qui les entoure. Mais ils ne peuvent pas se mettre un bandeau sur les yeux. Le racisme est là, il plane partout, surtout aux États-Unis. Miles a bien conscience de cette haine raciale qui lui colle au basque depuis sa naissance. Juliette, elle découvre ça quand elle l'accompagne à New York.
Juliette Gréco se rappelle de cette terrible réalité qui lui a sauté à la face.
Je chantais à ce moment-là en Amérique, à New York. Au Waldorf Astoria, les nègres, c'était pas tellement appréciés, quoi. Vraiment, c'était ni nègre, ni chien. Tout ça totalement répugnant, gerbant et immonde. Et j'en ai conçu une immense douleur. Miles est venu à l'hôtel. Je les avais invités avec le Modernas Quartet. C'est pourtant pas vraiment de la merde. Hein? Moi, j'avais une suite parce que je chantais dans ce lieu. On nous a servi comme on n'oserait pas servir le chien d'une femme riche. Ni d'une femme pauvre, d'ailleurs. On nous a jeté les plats à travers la gueule, comme si nous étions...
Sans colère, là encore, hein.
Moi ? Ah, oui, meurtrière, totalement, oui, prête à cogner.
Juliette est en colère, et elle cogne sur les injustices.
J'étais au restaurant, un endroit très chic. Les gens me connaissaient là, très bien. Le maître d'hôtel en chef me connaissait très bien, et me voit arriver... Il me dit, bon, bonjour, Angèle Gréco. Et tout à coup, il voit Miles derrière. Et il change de tête. Il me dit, ah, je suis désolé, nous n'avons plus de place ce soir. Plus de table, c'est complet. Et je lui dis, donnez-moi votre main. Et j'ai craché dedans. Et je suis parti.
Vous êtes retourné dans ce lieu ?
Non ! Ah non ! Non !
Juliette, femme rebelle, sort les poings et les crocs, prête à affronter l'avenir.
Il faut garder sa violence. Pas sa violence meurtrière, mais sa violence profonde, vers et envers les choses. Il faut rester intègre. Voilà. Parce que c'est les recettes de Tante Juliette.
Écoutons tous les recettes de Tante Juliette et foutons le feu, au figuré bien sûr.
Au retour de New York, Miles Davis dit à Juliette Gréco « Je ne veux plus jamais vous voir ni vous rencontrer à New York parce que je ne veux pas que vous passiez pour une putain. » Entre le racisme et le sexisme, les haines de son prochain transpirent. Et ça fait un électrochoc face à l'amour passionné de ces jeunes gens. Leur idylle ne dura qu'un temps. Mais Juliette dit...
À chaque fois que l'on s'est revu, il avait le même regard sur moi et moi le même regard sur lui. C'est un diamant. Cette histoire a un truc pur, brûlant. Rien ne nous a jamais atteints, ni lui, ni moi. On était nous jusqu'à la fin du monde.
Ils étaient, elle et lui, un tout. Entre eux, l'égalité est de mise. Lui, le mâle, ne la traitait pas comme une femme. Elle, la blanche, ne le traitait pas comme un noir. Juste deux êtres qui s'improvisent avec passion. Qu'est-ce que c'est beau. Chacun cherche sa moitié, disait Platon, pour reconstituer le tout originel et créer un tout. comme Noun, l'océan primordial dans la mythologie égyptienne. Noun est l'océan qui a fait la vie et qui fera la mort. Il s'étend autour du monde, il est le haut et le bas. Il est la femme et l'homme, il est un, comme Juliette et Miles.
Flamme qui s'allume dans le fond de tes yeux. Je sais trop bien que c'est dangereux, mais je jouerai le jeu. Si mon cœur flambe et tombe en cendres, tu me diras adieu. Il n'y a pas d'amour sans feu. Il n'y a pas d'amour sans feu. Pourtant, pourtant, qui sait lequel de nous deux sera malheureux. La flamme danse et brûle ce qu'elle peut. Tant pis pour toi. Si c'est dangereux, tu devras jouer le jeu. Si ton cœur flambe et tombe en cendres, quand je te dirai adieu.
Ainsi s'achève cette émission. Derrière les manettes, le maestro Nicolas Slimani, ingénieur du son. À la réalisation, la maestra Fanny Boyon. La programmation était assurée par la maestra Muriel Pérez, à la voix des anges et au texte, la maestra Elsa Denac. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir dès la semaine prochaine. Salut.